Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Soleil, vent, marée, chaleur terrestre, force de l'eau, les sources naturelles pour produire des énergies renouvelables sont multiples. Comment fonctionnent-elles? Sont-elles inépuisables? Quels sont leurs coûts? Et suffisent-elles à pallier à tous les besoins en énergie de la France, d'une métropole comme Nantes par exemple? Après notre premier épisode des Écolonautes dédié à la baisse de consommation énergétique, on s'intéresse aux énergies renouvelables. L'énergie militante, c'est le slogan de la société coopérative d'intérêt collectif basée notamment en Pays de la Loire, Enercop. Notre invité Samuel Faure, directeur d'Enercop Pays de la Loire, le soleil a-t-il un prix? L'eau a-t-elle un coût? Le vent ou le bois serait-il de l'or? Les énergies renouvelables semblent être au cœur de la transition écologique et la clé du succès. Les Écolonautes, épisode 2. Deuxième épisode des Écolonautes, donc deuxième ping-pong avec Alexandre. Salut Alexandre.
Bonjour Lucie.
Alors déjà, on pose le décor. Qu'est-ce que c'est une énergie renouvelable?
C'est une source d'énergie. Elle se renouvelle assez vite pour être considérée comme inépuisable à l'échelle du temps humain. Et ça peut prendre plusieurs formes. De la chaleur, comme les pompes à chaleur, le solaire thermique, de l'électricité, donc ça on l'obtient avec de l'hydraulique, de l'éolien, du solaire photovoltaïque. Et ça peut aussi prendre la forme de combustibles valorisés énergétiquement, comme le biogaz, le biocarburant ou le bois énergie.
On en produit beaucoup en France?
En France, on a un cap. En 2050, il ne faut plus produire d'énergie fossile, telle que du charbon, du pétrole et du gaz, et c'est inscrit dans la stratégie nationale bas carbone. Pour y arriver, il faut produire plus d'énergie renouvelable et en même temps diviser par deux la consommation d'énergie globale. En 2016, elle représentait 16% de la consommation finale d'énergie contre 9,3% en 2006. Donc on progresse, c'est positif. Et ce taux est même certainement meilleur aujourd'hui, mais notons qu'elle reste derrière le nucléaire, les produits pétroliers et le gaz. Globalement, même si les pompes à chaleur, les biocarburants et l'éolien ont beaucoup progressé depuis 20 ans, le bois énergie et l'hydraulique restent prédominants. Ils représentent à eux seuls 60% des énergies renouvelables.
Qu'en est-il en région Pays de la Loire?
Selon TEO, l'Observatoire de la transition écologique régionale et Air Pays de la Loire, on est à 14% de la consommation énergétique finale en région couverte par des énergies renouvelables. Ces chiffres datent de 2016. Ça a progressé aussi depuis 2008 et c'est certainement beaucoup plus aujourd'hui. Dans certaines réunions, on peut entendre parler des 20%. Les énergies renouvelables qui ont enregistré les plus fortes progressions en termes de puissance produite sont les chaufferies bois, l'éolien et les pompes à chaleur. Mais dans tout ça, n'oublions pas le dynamisme du photovoltaïque. Il représente plus d'un cinquième de l'électricité produite aujourd'hui.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, Alexandre.
Globalement, on progresse sur tous les champs sur lesquels il faut progresser.
Faut-il privilégier la production d'une énergie renouvelable plutôt qu'une autre?
Ça, c'est une excellente question. Chaque énergie renouvelable a sa place dans le mix énergétique décarboné de demain. Il s'agit de savoir laquelle peut être produite selon les ressources des territoires et pour quels usages. L'éolien en milieu urbain pour produire de l'électricité, ça paraît limité, bien que ce ne soit pas impossible. En revanche, en milieu urbain, on a plus de toitures pour du solaire, qu'il soit photovoltaïque pour de l'électricité ou thermique pour obtenir de la chaleur. À la campagne, certains élevages peuvent se doter d'unités de méthanisation et produire du biogaz. Il sert à se chauffer ou à faire rouler des véhicules.
Produire d'un côté, ça veut aussi dire consommer à la fin. Comment faire pour s'approvisionner en énergie renouvelable chez soi?
Eh bien, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de choisir un fournisseur. Il vous vendra de l'électricité ou du gaz d'énergie renouvelable.
Alexandre, tu dis que c'est simple, mais en réalité, c'est pas si simple que ça.
Eh bien voilà, puisque des offres, il y en a beaucoup et elles sont plus ou moins vertes. Pour s'y retrouver, le guide de l'électricité verte de Greenpeace apporte une aide précieuse. Plus de 20 fournisseurs sont passés au crible. Quelle est la part d'énergie verte réellement fournie? Le fournisseur ne va-t-il pas avoir recours quand même à de l'électricité issue de centrales charbon, gaz naturel ou fioul? Et est-ce qu'il investit dans le développement des énergies renouvelables? Autant de questions qui trouveront des réponses dans ce guide.
Énergie solaire, énergie éolienne, biomasse ou encore énergie hydraulique, géothermique, Tour d'horizon des énergies renouvelables avec Samuel Faure, directeur d'Enercoop Pays de la Loire. L'histoire d'Enercoop se tisse en 2004. À l'époque, une vingtaine d'acteurs issus des énergies renouvelables, de l'économie sociale et solidaire et d'associations citoyennes se regroupent et se fédèrent pour proposer un autre modèle de consommation énergétique au grand public. Sous l'impulsion de Greenpeace, Biocoop, Espul, le réseau Claire, les Amis de la Terre et la Nef, Enercoop voit le jour en 2005 sous la forme d'une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. La première antenne d'Enercoop s'installe dans les Ardennes, dans la Manche, puis dans le Nord-Pas-de-Calais, le Languedoc-Roussillon, puis ce sera autour de la Bretagne et des Alpes-Côte d'Azur. On en est où en Pays de la Loire? C'est ce que l'on va tout de suite demander à Samuel Faure, le directeur d'Enercoop Pays de la Loire. Bonjour Samuel Faure.
Bonjour.
Depuis quand donc Enercoop est installé dans la région? C'est la petite dernière en fait.
Exactement, on est la 11e coopérative du réseau Enercoop. Donc la coopérative a été fondée il y a bientôt 2 ans, donc en octobre 2018, et c'était le fruit d'un travail d'incubation de 3 ans sous forme associative. On achève effectivement notre 2e année d'existence.
Quels sont les enjeux essentiels dans l'expansion des énergies renouvelables à court terme? Ça urge? Est-ce que c'est faisable encore pour éviter le crash?
Alors oui, effectivement, il y a différents scénarios qui sont élaborés par différents acteurs associatifs et même repris par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui affirme qu'on peut tout à fait, à horizon 2050, s'orienter vers un mix 100% renouvelable en France, compte tenu des gisements dont on dispose, qui sont principalement d'origine hydraulique, solaire, éolienne et biomasse. C'est bien la raison d'être d'Enercoop, c'est de pouvoir accélérer la transition énergétique. Le grand sujet du moment, c'est comment on sort progressivement du nucléaire, qui représente encore aujourd'hui 70% du mix électrique français.
On parle de 20% d'énergie renouvelable en Pays de la Loire, ça paraît peu finalement?
Oui, c'est à peu près ça. Effectivement, la région Pays de la Loire est une région, ça n'aurait échappé à personne, qui n'est pas très riche en matière d'hydroélectricité, donc on n'a pas le potentiel historique des régions montagneuses. Et donc effectivement, les gisements renouvelables sont principalement solaires et éoliens. Et donc c'est des technologies qui sont un peu plus récentes et dont le développement est en cours. Et donc effectivement, c'est ce qui explique qu'on est encore sur un ratio de cet ordre-là dans la région. Ouais.
Les détracteurs des énergies renouvelables énoncent souvent des arguments quand il s'agit de parler des éoliennes comme « ce n'est pas si écolo que ça, on ne sait pas les recycler, c'est énergivore à produire ». Ça gâche le paysage, la force générée par les éoliennes est dangereuse pour la santé. Que leur répondez-vous à ces détracteurs et est-ce que effectivement c'est une solution si écologique que ça, les éoliennes en tout cas?
Pour le coup, effectivement, quand on raisonne en analyse de cycle de vie, donc sur l'ensemble de l'impact carbone de la production, hein, de toute façon tous les moyens de production d'énergie ont un impact, quel qu'il soit, mais effectivement aujourd'hui sur les productions renouvelables, qu'elles soient éoliennes ou photovoltaïques, on a aujourd'hui des solutions de démantèlement et de recyclage des installations qui sont d'ailleurs provisionné financièrement dès la construction, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des filières conventionnelles. Quand on construit un parc éolien, quand on s'engage vis-à-vis de l'État sur une production éolienne, on a l'obligation de provisionner le coût du démantèlement qui va intervenir au bout de 20, 25 ans, 30 ans en fonction des parcs.
Concrètement, quel est le bilan de l'impact environnemental d'une éolienne, par exemple?
Alors, tout dépend des critères qu'on prend en compte, mais si on prend le critère le plus convenu, ce qui est le contenu carbone, le contenu CO2 de la production d'énergie électrique. En éolien, on est très inférieur à la moyenne française des productions, qui est un mix, encore une fois, d'origine nucléaire, fossile et renouvelable. Et donc, la filière hydraulique est la plus performante en matière environnementale, si on regarde le critère CO2. Ensuite vient l'éolien et ensuite le photovoltaïque. Donc, on est effectivement dans des natures de production qui vont nous permettre d'améliorer le contenu carbone du mix électrique français.
Est-ce que le développement massif des énergies renouvelables pourrait avoir des effets pervers autant que l'énergie fossile? Est-ce qu'il y a vraiment une bonne solution?
Il n'y a pas une solution miracle, en fait. Hein. C'est bien la difficulté de cette transition énergétique là à laquelle on s'adosse tous. C'est que la solution, de notre point de vue, elle est dans un bon équilibre des ressources qui permettent de valoriser les gisements locaux. L'idée, c'est aussi de pouvoir s'affranchir petit à petit des matières premières qu'on importe principalement, hein, que ce soit de l'uranium ou des énergies fossiles. Effectivement, ensuite, l'enjeu, c'est de pouvoir planifier le développement des renouvelables de façon à ce qu'elles ne s'installent pas de façon anarchique. Donc, pour le coup, on est dans un pays, en France, où on a suffisamment de règles qui permettent de guider chacune des filières. Donc, typiquement, un parc éolien, aujourd'hui, on a des règles qui supposent qu'on s'installe à plus de 500 mètres des habitations, par exemple. Et ça, c'est un facteur d'acceptation sociale qu'on a en France et qu'on n'a pas dans d'autres pays, par exemple.
Une des grandes questions, parfois, pour les consommateurs, les particuliers, c'est où, comment et par qui est produite mon électricité? Quelle garantie de traçabilité vous donnez à vos consommateurs chez Enercoop?
Alors, la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tous les producteurs et tous les consommateurs sont raccordés sur le même réseau électrique. On a cette chance en France d'avoir un réseau électrique qui est un monopole public, donc un outil collectif. Par contre, la difficulté, c'est qu'une fois que tous les producteurs injectent sur ce réseau, on ne sait plus distinguer la provenance de l'électricité. Tout ça, ça se mélange et ça arrive en fonction des appels d'électricité chez tel et tel consommateur. Et donc, c'est pour ça que comme on n'est pas en mesure de garantir la traçabilité technique de la production, la question qui est importante de notre point de vue, c'est de pouvoir avoir une traçabilité financière sur ce que rémunèrent les factures. La promesse d'Enercoop, c'est qu'effectivement, quand on paye sa facture en tant que consommateur, on rémunère de façon transparente des producteurs qui sont identifiés. Donc on a à peu près 300 producteurs répartis sur toute la France, donc des producteurs d'origine éolienne, hydraulique et solaire principalement, et donc qui sont clairement identifiés. Et donc c'est cette transparence qu'on appelle de nos voeux, qu'on a malheureusement aujourd'hui pas beaucoup sur le marché électrique français.
D'après vous, comment rapprocher au mieux la production locale d'énergie renouvelable et sa consommation?
Alors justement, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter pas très loin d'ici, hein, dans le territoire des Mauges, dans le Maine-et-Loire. Enercoop lance une expérimentation nationale qui se déroule donc pas très loin de chez nous, qui consiste à proposer aux consommateurs du territoire, donc les habitants, les entreprises, les collectivités, une offre locale qui s'appelle donc Électricité des Mauges. Et là, typiquement, on s'appuie sur la production des parcs de production locaux, donc le parc éolien de l'Irôme, qui est détenu par des citoyens et des collectivités locales, intégralement. Donc on est bien là dans une réelle économie locale, hein, qui est à la fois gouvernée et conduite par des acteurs du territoire. Et puis on va avoir petit à petit tous les producteurs solaires qui vont venir rejoindre cette offre locale à travers le mouvement COWAT, qui est une société à gouvernance coopérative qui couvre la région des Pays de la Loire. Et donc Enercoop propose aux clients du territoire de consommer directement la production de ces parcs citoyens et publics.
Souscrire à Enercoop, c'est sûrement un engagement responsable. Le frein peut être pour des raisons financières. Est-ce réellement plus cher qu'un fournisseur conventionnel?
Alors, en effet, Enercoop est un peu plus cher. Alors, quand on se compare aux tarifs réglementés de vente, donc les tarifs auxquels adhèrent encore la majorité des Français chez EDF, on a, en fonction des profils de consommation, un écart qui va se situer entre 10 et 15%. Encore une fois, il faut ramener ça à la valeur réelle de ce que ça représente. Donc pour un foyer français moyen, on est sur un écart mensuel qui est aux alentours de 6 à 7 euros par mois. Donc voilà, après, c'est une question d'engagement. On se compare souvent au biocoop. On est un peu le biocoop de l'énergie. En fait, on fait le choix de consentir un prix un peu plus élevé parce qu'on ne consomme pas tout à fait le même produit. Et en termes d'impact de sa consommation, une façon assez simple de promouvoir des initiatives et des producteurs vertueux sur les territoires.
Avez-vous prévu de pallier à ce surcoût pour les foyers les plus modestes pour qu'ils puissent y souscrire, en fait, pour qu'ils puissent eux aussi s'engager, avoir une électricité responsable, par le biais d'un système de solidarité, de parrainage, par exemple?
Alors oui, effectivement, le parrainage existe. Et alors, de fait, la grille tarifaire d'Enercoop est constituée de telle sorte à ce que les petits consommateurs, donc les plus sobres, donc avec des abonnements de faible puissance et des consommations réduites, on est sur des prix qui sont même plus compétitifs que d'EF, pour le coup. Donc ça permet à des ménages qui sont engagés dans une vraie démarche d'économie d'énergie, d'avoir accès à une énergie à la fois renouvelable, mais aussi moins chère que les tarifs régulés d'EDF. Et on travaille aussi, on a contribué à l'émergence d'un projet qui s'appelle Énergie solidaire, qui consiste à faire du micro-don sur facture. On alimente un fonds de dotation qui va ensuite permettre à des associations qui luttent contre la précarité énergétique de financer des programmes d'action. Donc on travaille avec des gens comme la Fondation Abbé Pierre, par exemple, qui est en contact direct avec des foyers en situation de précarité qui bénéficient d'un cofinancement issu des factures des consommateurs d'Enercoop qui font le choix de contribuer à ce projet Énergie solidaire.
Quelle différence concrètement avec de gros fournisseurs?
La grande différence, c'est le statut du fournisseur. Donc Enercoop appartient à ses clients et à ses producteurs. Donc c'est le statut coopératif. Et de fait, on n'a pas d'objectif de lucrativité. Donc statutairement, dans le statut des SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif, on réinjecte réglementairement au moins 57% des bénéfices. Quand on en fait, on n'en fait pas tous les ans, mais quand on fait des bénéfices, on les réinjecte majoritairement dans la coopérative. Et on décide ensuite en assemblée générale de la façon dont on investit le reste des bénéfices. Et jusqu'à maintenant, les assemblées générales ont toujours décidé de réinvestir dans la coopérative. Donc c'est un projet dont la vocation est d'accélérer la transition énergétique en associant tout un lot d'acteurs. Les décisions sont prises entre les consommateurs, les producteurs, des collectivités locales, les salariés participent aussi à la décision. Et donc, on est dans une vraie logique de commerce équitable et de partage de la décision.
Comment voyez-vous l'avenir à Enercoop ? Est-ce que vous êtes positif sur l'adhésion des citoyens de manière générale aux énergies renouvelables et à la prise de conscience liée au changement climatique et à la crise écologique ? Comment convaincre les plus hostiles ?
Alors, déjà, si on arrivait à convaincre de passer à Enercoop tous les écolos sensibles, on aurait déjà largement de quoi faire. Mais
qu'est-ce
de fait,
qui bloque, en fait ?
Qu'est-ce qui bloque ? Alors, je pense que c'est assez culturel, en fait. On se fait une montagne de changer de fournisseur, alors qu'en fait, c'est vraiment tout simple. Ça se fait en ligne, ça prend 10 minutes. C'est même plus simple que de changer de fournisseur d'Internet ou de fournisseur téléphonique. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est ancré comme ça dans la culture française. On a cette image d'EDF qui est l'acteur dominant. De fait, aujourd'hui, on a encore quasiment un Français sur deux qui n'est même pas au courant qu'il a la possibilité de changer de fournisseur. On a un vrai aussi enjeu de pouvoir démocratiser l'accès aux énergies renouvelables en communiquant sur la simplicité en fait, de changer de fournisseur et d'être acteur du changement. Quoi.
Est-ce que vous êtes positif sur ce futur et sur les potentiels nouveaux bénéficiaires d'Enercoop ?
Oui, tout à fait. On n'est plus les seuls. Hein. Donc Enercoop a été le premier acteur en 2005 à proposer une offre 100% renouvelable. Aujourd'hui, on n'est plus tout seul. Donc ça veut dire qu'on a aussi des relais de communication, hein, qu'on n'est plus tout seul à prêcher la bonne parole. Et on voit que ça s'accélère. Petit à petit, les gens qui changent de fournisseur sont de plus en plus nombreux. La commission de régulation a fait paraître des chiffres il n'y a pas très longtemps. En ce moment, EDF perd en moyenne 100 000 clients par mois. Donc ça veut dire que ça s'accélère. Donc,
là, 100 000 clients par mois ?
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc, c'est énorme.
Donc voilà, ça fait pas très longtemps. Hein. Ça fait disons un an, grosso modo, qu'on est sur cette tendance, cette dynamique. Effectivement, donc ça c'est en train de s'accélérer. Tout l'enjeu pour Enercoop, bah, c'est d'exister, d'être visible dans ce nouveau marché, avec autour de nous de nouveaux acteurs qui sont plus agiles, on va dire, que la coopérative sur les aspects marketing, communication, etc. Et donc voilà, on profite aussi de cette dynamique qui est enclenchée, et sachant qu'on n'est pas inquiet sur la prise de conscience. Je crois qu'aujourd'hui, la prise de conscience globale du grand public sur le changement climatique et les impacts environnementaux, elle est actée. Et maintenant, il faut qu'on arrive à mettre en avant notre modèle particulier issu de l'économie sociale et solidaire, qu'on est pour le coup le seul à proposer.
Vous êtes au cœur de la transition énergétique chez Enercoop. Est-ce qu'il est presque trop tard pour cette transition ou pas ?
Ben, j'ai envie de dire qu'il n'est jamais trop tard. Donc, c'est un vrai sujet, sachant que l'électricité en France, on est sur une problématique. Aujourd'hui, grâce au nucléaire, on a un contenu carbone qui est relativement maîtrisé par rapport à d'autres pays européens. Par contre, le nucléaire pose d'autres questions. Des questions d'ordre sanitaire, des questions d'ordre sécurité d'approvisionnement.
Vieilles, les centrales nucléaires françaises.
Les centrales sont vieilles, effectivement, et d'ordre économique. Aujourd'hui, Flamanville a fait la démonstration que le nucléaire ne suivait pas la compétitivité des énergies renouvelables. Donc, on a un choix collectif à faire en France. C'est quel avenir et où est-ce qu'on va investir massivement dans la transition énergétique. Et là, pour le coup, c'est un débat qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant à l'échelle nationale sur la stratégie que l'État va adopter pour faire la transition à la fin de vie du parc nucléaire actuel. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir basculer sur un mix renouvelable. Le pire pour nous, ce serait qu'effectivement l'État prenne une décision d'investir, de réinvestir massivement dans l'EPR, par exemple, dont on voit aujourd'hui que c'est un fiasco industriel, enfin, on peut le dire.
Ça fait 30 ans hein, que les écologistes notamment parlent de ça et parlent de transition. Là, on est en 2020 aujourd'hui, là, ça plus que urge. Le gouvernement a mis sur la table des millions, des milliards récemment sur son plan de relance suite à la crise de Covid et pour investir dans l'écologie. Est-ce que vous êtes positif là-dessus ? Est-ce que vous pensez que ça aura un réel impact sur le développement des énergies renouvelables ?
C'est difficile de vous répondre. En fait, on n'a pas vraiment de signaux très clairs de la part du gouvernement sur le nœud du sujet qui est l'industrie nucléaire en France. Et c'est vraiment ça qui va guider, qui va pouvoir nous dire si l'essor des renouvelables va être réellement massif dans les années qui viennent. Parce qu'encore une fois, si l'État français décide de reconstruire 6 EPR, bah, c'est autant d'énergie dont on n'aura pas besoin sur les productions renouvelables. Donc, même la loi PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, ne dit pas très clairement la façon dont l'État français entend poursuivre ou non la production nucléaire. C'est un débat qu'on repousse devant nous et qu'on n'a aujourd'hui pas dans l'opinion publique. On appelle ça de nos voeux, nous, côté Enercoop, c'est que la société se prennent en main pour débattre de la pertinence du modèle nucléaire français qui, de notre point de vue, est à bout de souffle. Et c'est d'ailleurs le cas partout dans le monde. Aujourd'hui, les renouvelables supplantent très largement les investissements dans le nucléaire.
Souvent, les détracteurs des énergies renouvelables disent on ne va pas éclairer toute la France avec du vent. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Les scénarios existent. Donc, on sait, sur le papier, assumer l'ensemble de nos besoins électriques avec du 100% renouvelable, avec un mix, encore une fois, un équilibrage entre plusieurs sources, éoliennes, solaires, photovoltaïques. Aujourd'hui, nos voisins portugais, par exemple, ont fait la démonstration. Donc en 2019, il s'est passé une période de 5 semaines consécutives pendant lesquelles l'ensemble des besoins électriques du Portugal ont été assumés en 100% renouvelables, donc avec des installations hydroélectriques, éoliennes et solaires. Le Portugal l'a fait. On a des gisements en France qui sont même supérieurs à ce qu'on a au Portugal en termes de gisements éoliens, par exemple. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas aujourd'hui en France aussi à assumer complètement la fourniture de nos besoins.
Et d'autant plus qu'on a des façades maritimes bien plus conséquentes qu'au Portugal.
Exactement. Donc on a effectivement cette chance d'avoir des façades maritimes, des gisements éoliens très réguliers. Sur la Bretagne, sur l'Occitanie, on a des zones qui sont très propices à l'éolien et qu'on exploite encore assez peu.
Affaire à suivre donc.
Exactement.
Merci beaucoup Samuel Faure. On le rappelle, vous êtes le directeur d'Enercop Pays de la Loire. Merci à vous.
Merci.
Les Écolonautes, épisode 2, à retrouver sur le www.prune.net. C'est tous les 15 jours, le mercredi à partir de 18h dans Curiosité. Prochain épisode le 18 novembre avec la découverte d'Openland, fabrique évolutionnaire basée sur l'île de Nantes, pour penser la transition écologique dans chacun de vos projets.